Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Une petite note pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Donc, je suis les rubriques du pape Pie XII. C'est que le pape Pie XII, en 1955, a modifié la semaine sainte. Il est infaillible dans ce domaine pour les modifications liturgiques. Pour toute Église universelle, le pape est infaillible, donc nous sommes obligés, sous peine de péché grave, de suivre les réformes de Pie XII de la semaine sainte. Donc pour ceux qui ont des missels plus anciens que 1955, donc vous aurez des différences parfois importantes avec ce qui se faisait avant. Donc je rappelle les horaires pour la semaine sainte: lundi, mardi, mercredi à messe à 7h30, jeudi et vendredi l'office à 17h30, vendredi il y aura d'abord le chemin de croix, puis l'office de la messe des présanctifiés, l'office du vendredi saint, samedi soir la veillée pascale à 22h30, suivie de la messe de minuit, et la messe du jour, dimanche de Pâques, à 10h. Je voudrais un petit peu, vous parler de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'une des grandes tentations que nous avons tous, c'est typique de l'esprit moderne, c'est de penser que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose de simplement passé. Il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, ce qui est vrai. Mais il est ressuscité d'entre les morts, donc la passion est terminée. Et on ne se rend pas compte du tout que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas terminée, justement. Pourquoi ? Parce que la cause de la passion est toujours là. Pourquoi la passion ? Qu'est-ce qui a provoqué la passion ? La passion est provoquée par le péché. C'est le péché qui est la cause de la passion. Donc à cause du péché d'Adam et Ève et des milliards de péchés qui ont suivi la prévarication d'Adam et Ève, à cause de ces péchés, le péché étant quelque chose de tellement grave, notre Seigneur Jésus-Christ a dû donc accepter la demande de son Père de prendre une nature humaine pour pouvoir souffrir, puisque notre Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu ne peut pas souffrir, puisqu'il est impassible. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ donc a pris une nature humaine dans le sein très pur de la Sainte Vierge, la très Sainte Vierge Marie, le 25 mars, pour pouvoir, après 33 ans ici-bas sur la terre, mourir sur la croix comme le dernier des esclaves. Ça, c'est les conséquences du péché. Cela doit nous faire réfléchir et nous aider à comprendre la gravité du péché. Mais malheureusement, le péché étant toujours là, la passion doit être continuée d'une manière ou d'une autre. Pensez à tous ces milliards de péchés qui ont été commis au cours de l'histoire de l'humanité. Regardez, même aujourd'hui, ces horreurs qui se passent. Le gouvernement français qui fait une déclaration pour rappeler que malgré les confinements, ne vous inquiétez pas, les cliniques abortives seront toujours ouvertes pour qu'on puisse continuer à tuer les bébés. N'est-ce pas quelque chose d'absolument épouvantable ? Eh bien justement, cela doit nous rappeler les conséquences du péché. Et parce que le péché est toujours là, Dieu a dû trouver un moyen, en quelque sorte, de maintenir sa passion comme quelque chose d'actuel. Au début du missel, avant le texte du canon, il est marqué « infra actionem », dans l'action. Donc la passion n'est pas simplement quelque chose de passé, c'est quelque chose d'actuel. Et pour rendre cette passion actuelle, qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ ? Pour rendre cette passion actuelle, notre Seigneur Jésus-Christ, justement, nous a donné le Saint-Sacrifice de la Messe. Ce sacrifice de la Messe, renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Un mystère absolument insondable. Donc c'est exactement la même passion. Il nous faudrait donc assister à la Sainte Messe avec le même état d'esprit qui devait être celui de notre Sainte Vierge Marie, de Sainte Marie-Madeleine, de Sainte Femme qui ont assisté à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est exactement la même passion, la même action. Notre Seigneur Jésus-Christ meurt de nouveau, offre de nouveau son corps, son sang, son âme et sa divinité, précisément pour rattraper les péchés des hommes. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Elle me dit, même sur l'abbé, c'est quand même pas la même chose. Oui, c'est la même chose. Bien sûr, il y a des petites différences entre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui se renouvelle chaque jour sur l'autel. Mais ces différences sont des différences purement accidentelles. Le catéchisme du Concile de Trente nous explique que la passion de notre Seigneur il y a 2000 ans est une passion sanglante. La passion sur l'autel est une passion non sanglante. La deuxième différence, c'est que au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a offert sa passion, il l'a offert directement. Aujourd'hui, il l'offre par l'intermédiaire du prêtre. Le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire le prêtre agit en la personne du Christ. À tel point, le prêtre prend tellement la place du Christ pendant la Sainte Messe qu'il est obligé de dire, lorsqu'il prononce les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Bien sûr, c'est pas le corps et le sang de l'abbé Lafitte, c'est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci est tellement nécessaire que si le prêtre disait « Ceci est le corps du Christ, ceci est le sang du Christ », la messe serait invalide. Pourquoi ? Parce que il faut que le prêtre se mette à la place du Christ, prenne la place du Christ à cause de son caractère sacerdotal, il a ce pouvoir de prendre littéralement la place du Christ. C'est la même chose à chaque fois que le prêtre vous donne l'absolution. Il ne dit pas que le bon Dieu vous accorde son pardon, vous pardonne ses péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et s'il disait cela, la confession serait invalide. Qu'est-ce qu'il dit? Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pas le prêtre qui pardonne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui pardonne, utilisant le prêtre comme un instrument actif. La troisième différence, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, au moment de la Passion, a en quelque sorte mis au pied de la croix, dans un coffre énorme, il a mis toutes les grâces qui seront nécessaires pour l'humanité tout entière pendant toute l'histoire du monde. Et à chaque fois qu'un prêtre célèbre la messe traditionnelle, il va réutiliser ces grâces qui existent, qui ont été préparées en avance par notre Seigneur Jésus-Christ au jour de sa mort, il y a 2000 ans. Et la dernière différence, c'est que la messe étant un sacrifice, pour qu'il y ait un sacrifice réel, il faut qu'il y ait séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur. Sinon, il n'y a pas sacrifice. Et pour qu'il y ait cette possibilité de séparation entre le corps et le sang, notre Seigneur Jésus-Christ, étant maintenant au ciel avec un corps glorieux, ne peut plus souffrir. Et donc, il faut quand même qu'il y ait une séparation entre ce corps et ce sang, sinon il n'y a pas de sacrifice. Or, la messe est un sacrifice. Donc, il faut qu'il y ait une séparation entre ce corps et ce sang. Et comment cette séparation est-elle possible? Elle est possible de façon sacramentelle. C'est pour ça qu'il y a deux consécrations. La consécration du corps, puis la consécration du précieux sang. Et à cause de cette séparation entre la première consécration et la deuxième consécration, il y a séparation mystique mais réelle entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et il y a donc un véritable sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une victime et la consommation des victimes. Et bien là, il y a tout. Le prêtre représente cette victime et va communier. La communion des fidèles n'est pas indispensable pour la validité de la messe. Par contre, la communion du prêtre est nécessaire pour la validité de la messe. Et justement, cette messe, ce renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, permet l'application de la passion à tous ceux qui veulent se mettre au pied de la croix et jouir de ces grâces que notre Seigneur Jésus-Christ a préparées pour nous. Alors, n'oublions pas qu'une des conditions, évidemment, sine qua non pour pouvoir utiliser ces grâces, c'est laquelle? La condition sine qua non pour pouvoir utiliser ces grâces, c'est d'être en état de grâce, justement. Pour qu'il y ait ce contact qui puisse se faire, c'est comme un cordon ombilical qui va amener les grâces de la tête au corps. Eh bien, c'est ce cordon ombilical est représenté par la vertu de charité. Donc, quelqu'un qui n'a pas la vertu de charité en lui, qui n'a pas l'état de grâce en lui, l'habitation en lui de la Sainte Trinité, évidemment, ne peut pas profiter de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, alors que, encore une fois, les péchés se multiplient par milliards, eh bien, on a besoin de cette messe. D'autant plus aujourd'hui où, malheureusement, les messes valides sont en nombre presque infinitésimal pour le monde entier. Combien y a-t-il de messes encore valides qui sont célébrées dans le monde entier aujourd'hui? On ne sait pas, mais très peu. Alors qu'il y a toujours autant de péchés. Un autre exemple que je peux vous donner, moi, qui m'a encore estomaqué, c'est la plus grande entreprise de production pornographique au monde, aux États-Unis, qui déclare que pendant le confinement, eh bien, on va mettre toute cette pornographie de façon gratuite à l'usage des gens, pour que les gens aillent un peu plus vite en enfer. Qu'est-ce qu'il faut contre ça? Le sang, le corps, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si on a compris ça, à ce moment, on tombe à genoux pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir la messe. Pensez encore une fois à tous ceux qui n'ont rien du tout. Pensez à tous ces gens qui sont dans les pays où il n'y a plus de prêtres, des gens qui sont dans les pays où ils ne peuvent plus assister à la Sainte Messe. Certes, le bon Dieu, dans sa miséricorde, permet à une personne déterminée d'avoir un acte de faire un acte de contrition parfaite, et s'il regrette ses péchés par pur amour du bon Dieu, eh bien, le bon Dieu lui pardonnera tous ses péchés. Certes, il peut faire un acte une communion spirituelle pour demander à s'unir spirituellement parlant avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est quand même pas comme la messe. Et donc, il faut remercier le bon Dieu de pouvoir avoir la Sainte Messe si près de chez vous, pour pouvoir justement vous associer à cette messe et que vous soyez vous un petit peu les intermédiaires. De même que la Très Sainte Vierge Marie est l'intermédiaire, vous aussi, puisque vous avez la grâce d'avoir la messe, priez pendant la messe pour tous ceux qui n'ont pas cette grâce que vous avez reçue. Alors, je n'ai pas le temps, bien sûr, de vous expliquer toute la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai pris dans la passion quelques expressions, quelques phrases qui me semble qu'il faut méditer. Un des points qui me frappe le plus quand je relis la Passion, c'est l'insistance du texte sacré sur la trahison des apôtres, la trahison des amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ va souffrir bien davantage de la trahison de ses amis que les trahisons que des gens qui sont ses ennemis. Les gens qui sont les ennemis de notre Seigneur ne trahissent pas notre Seigneur Jésus-Christ puisqu'ils ont toujours été ses ennemis. Par contre, ses apôtres ont été spécialement choisis par lui. Il les a pris un par un du peuple juif pour en faire ses apôtres, ses amis tout particuliers. Je ne vous appelle plus mes esclaves, dit-il, mais mes amis. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, a dû souffrir de façon épouvantable, justement, de la trahison de ses amis. On dit que les pères de l'Église disent que c'est précisément pendant l'agonie au jardin des Oliviers, alors que notre Seigneur n'a pas encore été physiquement touché par les Juifs, c'est à ce moment-là qu'il a le plus souffert. Il a eu cette agonie terrible pendant 3 heures, justement à cause de l'abandon de ses amis. Et c'est pour cela, nous dit une autre passion, que notre Seigneur Jésus-Christ a eu cette sueur de sang, cette hématodrosis, et qu'il a été découragé. Il est tombé en désolation, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui tombe en désolation, c'est quelque chose d'ahurissant. Mon âme est triste en mourir, a-t-il dit. À tel point que Dieu le Père est obligé d'envoyer un ange consolateur, une créature qui vient réconforter le cœur de notre Seigneur. Et cela doit nous montrer à quel point nous, créatures, nous pouvons faire comme cet ange et venir réconforter le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui est tellement offensé aujourd'hui. Et comment pouvons-nous réconforter le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ? Ben, nous pourrons le réconforter précisément par l'état de grâce. La seule façon de réconforter notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de lui présenter une âme pure. Et à ce moment-là, nous pouvons vraiment le réconforter. Alors, je voudrais simplement vous aider à méditer ce texte de la Passion. Je ne peux que vous conseiller pendant le temps de la Passion, surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet et qui ne peuvent pas avoir les offices, eh bien, relisez les quatre Passions. Lisez les quatre Passions, méditez-les lentement, lisez très lentement ces textes-là. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ont le film, revoir le magnifique film de Mel Gibson sur la Passion du Christ. Vous voyez, pour vous aider à utiliser toutes les grâces de la Passion, lisez lentement le texte, mettez-vous dans la scène, faites partie de ce drame, ce mystère extraordinaire de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que la phrase la plus importante, la phrase la plus importante qu'on trouve dans ce texte de la Passion, c'est tout à fait au début. Notre Seigneur Jésus-Christ va instituer la Sainte Eucharistie, il va instituer le sacerdoce, il va instituer l'épiscopat. La tradition nous dit qu'au jeudi saint au soir, notre Seigneur Jésus-Christ non seulement a ordonné prêtres ses apôtres, mais les a institués évêques. Et il va dire, au repas qui a suivi, il va dire cette phrase, au repas à la Sainte Cène, il va dire cette phrase. Épouvantable, littéralement, un pavé dans la mare. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Et c'est là où on peut voir l'humilité des apôtres. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Je crois que je me serais dit, à tous les coups, c'est Judas. C'est lui. Ils disent rien. Ils ne vont pas dire ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce moi, Seigneur? Ils se rendent compte d'un seul coup que puisque notre Seigneur Jésus-Christ, qui sait tout, sait qu'un d'entre eux va le trahir, ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Et c'est ce qu'il faut que nous disions à notre Seigneur Jésus-Christ pendant la messe. Seigneur, est-ce que ça va être moi? Et sans la grâce du bon Dieu, ça peut être vous ou moi. Je peux être le premier à offenser notre Seigneur Jésus-Christ après cette messe sans sa grâce. Et sans la grâce du bon Dieu, il n'y a pas un seul péché que commet le voisin que je ne sois pas capable de commettre encore 10 fois plus vite que lui. Précisément parce que sans la grâce du bon Dieu, je ne suis rien. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu, avec lui, on peut tout faire. Et il va le répéter plusieurs fois dans la soirée. On va voir notre Seigneur Jésus-Christ annoncer à Saint-Pierre qui dit, mais si tout le monde vous trahit, moi je ne vous trahirai pas. Aujourd'hui même, Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras trahi 3 fois. C'est aussi pour nous. Le bon Dieu nous dit la même chose. Tu vas aussi me trahir si tu ne comptes pas suffisamment sur ma grâce. Et c'est au moment de après l'agonie au Jardin des Oliviers, quand les Romains vont venir avec les Juifs, menés par Judas le traître, notre Seigneur Jésus-Christ va dévoiler qui il est. Celui qui me trahit s'approche. Eh bien, c'est exactement notre histoire. Et à ce moment-là, vous avez cette phrase qui est tellement, tellement gravissime, alors tous les apôtres, l'abandonnant, s'enfuirent. Et ça, c'est notre histoire à nous. Hein. Il ne faut pas se dire, quand on explique cette passion aux enfants, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas accepter ça. « Ah, mais moi, si j'avais été là, ce ne serait pas passé comme ça. Je me serais levé, j'aurais sorti mon épée pour défendre notre Seigneur. » Tous les apôtres l'abandonnent. Même Saint Jean, même Saint Pierre, le futur pape, tous l'abandonnent. Alors on peut se poser cette question, mon Dieu, si vos apôtres qui avaient vu vos miracles, qui ont vécu dans votre intimité pendant 3 ans, qui ont assisté à l'accomplissement de toutes les prophéties dans l'Ancien Testament, si ces apôtres se sont sauvés comme des lapins au moment de la passion, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je crois qu'il faut vraiment savoir méditer ces paroles et se les appliquer à nous. Pas les appliquer simplement pour les autres. On a un peu trop tendance, je vous l'ai souvent dit, on a beaucoup trop tendance à accuser les autres. Les gens nous disent souvent, combien de fois j'ai entendu ça, la passion c'est les juifs sont déicides. C'est vrai, et nous? Est-ce qu'on ne l'est pas? Et de quoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ souffre davantage? Est-ce qu'il souffre davantage du déicide des juifs ou est-ce qu'il souffre davantage du déicide de ses propres amis? Les juifs ne sont pas baptisés, les catholiques le sont. Et donc lorsque nous commettons un péché mortel, nous commettons un déicide. Parce que nous renouvelons la passion, comme le dit Saint Curé d'Ars, à chaque fois que je commets un péché mortel, je recrucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon cœur. Et donc, mes chers frères, il nous faut réaliser ces choses-là et les comprendre. Une autre phrase qui m'a beaucoup frappé aussi dans l'Évangile, c'est Saint-Pierre, le grand Saint-Pierre, qui 3 fois va répondre, menacé non pas par un soldat avec un grand sabre ou un glaive au-dessus de sa tête, ou une petite servante qui lui dit, mais dis donc, toi, je te connais, tu étais au Jardin des Oliviers. Qu'est-ce que fait notre Saint-Pierre? 3 fois, je ne connais pas cet homme. Et combien de fois, mes bien chers frères, vous et moi, nous avons répété la même phrase? À chaque fois que je suis le démon, que je me fais avoir roulé par le démon dans la farine et que je commets une faute grave, je fais exactement ce qu'a fait Saint-Pierre. Seigneur, je ne vous connais pas, quittez ma maison. Quittez ma maison. Et une autre phrase qu'on peut utiliser aussi dans la passion pour expliquer ce que je viens de vous dire, c'est la phrase de Pilate. Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre, Barabbas ou notre Seigneur Jésus-Christ? Maître, le Créateur du ciel et de la terre, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, au même niveau, sur le même plateau de la balance que un bandit, un assassin, Barabbas. Et combien de fois est-ce que je fais la même chose? Et combien de fois le monde me demande, me pose la même question, qui choisis-tu? Notre Seigneur Jésus-Christ ou Barabbas? Est-ce que tu veux suivre notre Seigneur Jésus-Christ avec la pauvreté, la chasteté, l'obéissance? Ou au contraire, est-ce que tu veux rester avec moi? Si tu restes avec moi, avec le monde, je te donne les honneurs, je te donne l'orgueil, je te donne l'argent, je te donne tous les pouvoirs. Qui choisis-tu? Et combien de fois j'ai fait ce que les Juifs ont fait? Combien de fois dans mon passé, par mes péchés personnels, j'ai crié Barabbas au lieu de tomber à genoux et prononcer le nom sacré de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la passion. Et donc là, on comprend que la passion, c'est pas quelque chose de passé simplement. Et en méditant ces choses-là, on comprend que nos misères à nous sont quand même bien peu de choses par rapport aux misères épouvantables de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous, on souffre, mais on est coupable. Donc c'est normal que nous souffrions. Alors qu'au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il a rien fait. Et pourtant, il souffre. Alors demandons justement au bon Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, notre Rédempteur, de nous donner la force de savoir utiliser le sang de sa passion et d'accepter toutes les petites épreuves, et parfois les grosses épreuves que nous avons dans notre vie de tous les jours, nous en avons tous. On ne va pas au ciel en carrosse, on ne va pas au ciel sur un tapis roulant, on va au ciel en portant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent on est réquisitionné, comme Simon de Cyrène, et apparemment on ne lui a pas demandé son avis. Il rentrait des champs, on l'a pris, tu vas porter la croix du Seigneur parce qu'il est en train de s'écrouler. Et Simon de Cyrène a dû prendre la croix de notre Seigneur. Au début, il l'a portée certainement en maugréant et en râlant. Puis au bout d'un moment, il a réalisé qu'il était en train de coopérer à une action extraordinaire. Et il s'est converti. Et ses deux fils, Simon et Rufus, vont devenir les premiers prêtres de l'histoire de l'Église, premiers martyrs. Saint Siméon, Saint Rufus. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons au bon Dieu de savoir comprendre, méditons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et passons évidemment par celle qui a, de façon extraordinaire, participé à cette passion, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Chaque coup qui a atteint notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'atteindre notre Seigneur Jésus-Christ, a dû frapper de façon terrible le cœur immaculé de Marie. Pensons surtout à tous ces milliards de péchés contre la foi. Dernier en date publique. On m'a envoyé la vidéo ce matin. François Robe qui nie que Marie soit reine. Elle n'est pas reine du ciel. Il l'a dit expressément. Elle n'est pas reine. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle missel, vous avez les litanies de la Sainte Vierge, elle est bien appelée reine du ciel, reine de l'Église. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie, elle qui est reine, puisqu'elle est mère, elle est mère du roi des rois, donc elle est reine évidemment. Demandons à Marie reine justement de nous aider à comprendre toutes ces choses-là, de savoir tomber à genoux pendant la méditation de la Passion, et d'ouvrir notre cœur tout grand pour que notre Sainte Vierge Marie, qui est l'intermédiaire entre son Fils et nous, puisse obtenir pour nous toutes les grâces de lumière, les grâces de force, les grâces de sagesse dont nous avons tant besoin pour ne pas nous décourager en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde moderne. En essayant de comprendre comment notre Seigneur Jésus-Christ, caché derrière les circonstances de la vie de tous les jours, nous parle tous les jours par sa volonté de bon plaisir et se manifeste par les circonstances de notre vie. Telle chose que je voudrais faire, tel projet que j'avais qui s'écroule parce que c'est pas ce que le bon Dieu veut pour moi actuellement. Eh bien, le bon Dieu se sert de ça pour m'imiter, pour que je puisse imiter un peu plus notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. À la messe, nous ne glorifions pas notre Seigneur Jésus-Christ glorieux ciel, strictement parlant, nous glorifions notre Seigneur Jésus-Christ crucifié entre deux larrons. Et il faut que nous participions à cette passion. Et si nous participons à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, alors un jour, nous pourrons participer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Mais avant de passer au ciel, il y a un point de passage obligé. Ce point de passage obligé, c'est la passion de notre Seigneur. Et puisque nous n'étions pas là à la première passion, bien nous sommes là au moins, avec la grâce du bon Dieu, aux autres passions qui sont répétées chaque jour sur l'autel, la passion du Saint Sacrifice de la messe. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.